invoquer Saint-Joseph parce que Saint-Joseph est le patron de la vie intérieure, et en particulier pour l'oraison, celui qui est le guide dans la vie d'oraison. En tout cas, c'est ce que le conseil que donne Sainte-Thérèse d'Avila, que de l'invoquer souvent. Je comprends bien, tout le monde n'est pas là. Bon. Bon. Et de cette instruction sur la prière et l'oraison, je vais être assez bref sur la prière pour parler surtout de l'oraison. Donc, on définit la prière comme une élévation de l'âme vers Dieu. Alors comment peut-on parler d'élévation pour un esprit, puisque notre âme est un esprit? Simplement, c'est l'esprit qui pense à Dieu, à tout ce qui concerne le bon Dieu. C'est l'esprit qui veut aimer Dieu, au lieu de penser et d'aimer les choses terrestres. Les choses terrestres sont en qualité bien inférieures aux choses divines. Alors lorsqu'on pense aux choses divines plutôt qu'aux choses terrestres, on s'élève de l'inférieur vers le supérieur, et le supérieur en l'occurrence étant d'une infinie perfection. Vous avez la prière vocale, donc cette prière que l'on dit avec des mots, et la prière mentale, celle de l'esprit, qui est l'oraison. La méditation. Alors, quelques mots sur la prière vocale. C'est celle qui s'exprime par des paroles ou par des cérémonies extérieures. Alors, par ordre d'importance, de valeur, la première, c'est bien sûr la prière liturgique. C'est celle qui est la plus élevée, la plus grande et la plus agréable au bon Dieu. Pourquoi la plus agréable? Tout simplement parce que les paroles utilisées sont ou des paroles divines, l'Écriture sainte. La liturgie est remplie de textes de l'Écriture sainte, et dans vos missels, vous avez souvent les références. Ou bien ce sont des paroles inspirées par l'Esprit Saint à l'Église, ce sont les paroles de l'Église, donc de l'épouse de Jésus-Christ, d'où l'importance et la valeur de ces prières liturgiques. Donc vous avez principalement le missel pour vous aider, et le bréviaire. Donc nous avons le soir, les complis qui font partie de cette prière liturgique. Ensuite, vous avez la prière non liturgique qui peut être en commun ou en privé. En commun, notre Seigneur la recommande beaucoup. Ainsi, deux d'entre vous s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Saint Matthieu chapitre 8. Donc là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Or parmi les prières recommandées en commun, il y a le chapelet, bien sûr, le chapelet en famille. Et Lucie de Fatima dit que la prière, et en particulier la prière du chapelet, est le moyen pour échapper à la désorientation diabolique qui envahit le monde. Avec le chapelet, vous avez la croisade du rosaire, donc qui s'appuie sur la communion des saints. Moi, je pense que vous savez tous, toutes, ce qu'est la croisade du rosaire. C'est chacun, 15 personnes s'engagent à dire l'une des dizaines du rosaire, des 15 dizaines du rosaire. Donc à 15, on dit un rosaire complet, mais chaque personne ne dit qu'une dizaine. Mais par la communion des saints, ce groupe de personnes dit le rosaire et profite des grâces équivalentes si l'on disait tout seul le rosaire complet. Ça s'appuie sur la communion des saints. Il y a ensuite la prière du matin et du soir, que Pie XII recommande de faire en commun aux jeunes époux. Pie XII a beaucoup parlé aux jeunes époux, et il la recommande cette prière du matin et du soir en commun. Et vous avez aussi en commun, qui s'appuie toujours sur la communion des saints, les neuvaines pour demander des grâces particulières. 9 jours de suite, on fait une prière pour demander telle ou telle grâce. Ensuite, la prière en privé, bien sûr, qui est très recommandable, qui est très nécessaire aux besoins de notre âme. Il ne s'agit pas de multiplier les prières, mais il faut bien les choisir. Choisir en premier lieu celles qui sont recommandées par l'Église ou par la coutume, et bien sûr celles qui proviennent de la liturgie. Alors, prière du matin et du soir, celle du matin, il faut la faire dès le lever. Si on attend, on est en train de dire le soir, je n'ai pas encore fait ma prière du matin. Alors, avant toute autre chose, dès le lever, on se met à genoux, on fait un beau signe de croix et on fait sa prière. Dieu premier servi. Voilà, c'est tout. Donc, commencez par votre journée par Dieu et cela ira mieux. Qu'est-ce qu'on fait dans cette prière du matin? L'acte de présence de Dieu, l'adoration, donc. Ensuite, les actes de foi, d'espérance, de charité. L'offrande de notre journée à Dieu, et on demande telle ou telle grâce spéciale pour la journée parce qu'on sait qu'il y a ceci ou cela, ou bien on demande les grâces pour lutter contre tel défaut ou pratiquer telle vertu, ce qu'on aura besoin pour toute la journée. On dit à notre Père, je vous salue Marie, et on prie notre ange gardien. Ne dites pas je n'ai pas le temps, ou ne dites pas les enfants n'ont pas le temps, ça ne prend pas plus de 2-3 minutes. Donc si c'est nécessaire, on se couche 2-3 minutes plus tôt et on se lève 2-3 minutes plus tôt. Et on a le temps de faire sa prière. Soyons raisonnables. Et le soir, l'examen de conscience, enfin la prière du soir, l'examen de conscience avec l'acte de contrition. Donc faites votre examen de conscience tous les soirs, dans la prière du soir. Et pour les enfants, il faut leur apprendre à le faire. Et puis, quand c'est une prière qui est faite en famille, on peut prier, alors on peut prier davantage avec un peu plus de longueur. Mais il faut, même lorsque l'on prie en famille, il faut toujours garder une prière personnelle. Parce que surtout quand on prie en famille, on n'a pas le même recueillement que lorsqu'on est seul. Et il faut garder cette prière personnelle. Et puis, dans la journée, il faut entretenir cette prière, cette élévation de notre âme vers Dieu par les oraisons jaculatoires. Vous savez, ces prières très courtes, très brèves, ces petites invocations que l'on fait souvent, Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous, ou les petites prières à la Sainte Vierge. Jaculatoire, ça vient du mot qui veut dire jeter, simplement. Donc des prières brèves qui nous permettent d'entretenir notre charité et notre amour du bon Dieu, nos résolutions, nos efforts. Alors ça peut être à l'ange gardien, aux saints anges gardiens de ceux que nous rencontrons. Puis aussi, nous pouvons facilement prier des « Je vous salue Marie » dans la journée. Nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre. Ça prend, je ne sais pas, 30 secondes, 60 secondes, une minute, si vous voulez, 3 minutes, on a le temps de dire un « Je vous salue Marie ». Comme disait le père Bélanger, un saint prêtre, « Semez des Ave Maria et vous récolterez des saints ». Donc, quand on a ces petits moments où on n'a rien à faire, des choses simples, se déplacer ou autre, eh bien nous avons le temps de dire un « Je vous salue Marie ». Plutôt que de penser à des bêtises, ça vaut mieux. Alors le but de la prière, qui est le but de l'oraison, qui est le but de la messe, c'est 4 choses, vous trouvez ça dans tout catéchisme. Adorer Dieu, louer Dieu dans ses perfections, bien sûr. L'admiration, l'adoration. Remercier Dieu de ses bienfaits. Lui demander des grâces et des secours particuliers, Et puis, ce que nous oublions trop, et que Mgr Lefebvre nous rappelait, c'est demander pardon pour nos péchés. Le sens de la contrition habituelle, cette disposition permanente dans notre âme, de la contrition qui est le meilleur obstacle au péché. Et puis la réparation, donc demander pardon, puis la réparation, donc savoir offrir les petites souffrances quotidiennes comme réparation de nos péchés. C'est une prière. À partir du moment où nous l'offrons, c'est une prière. Et c'est ce que la Sainte Vierge disait aux enfants de Fatima. Je pense que vous avez dû lire un petit peu cette extraordinaire générosité des enfants. Et la Sainte Vierge leur disait, dès que vous avez une souffrance, dites, c'est pour l'amour de Jésus-Christ, en réparation des outrages qui sont faits au cœur immaculé de Marie et pour la conversion des pécheurs. Donc ce sens un petit peu de la réparation. Donc voilà pour la prière, passons à l'oraison, ce qui est le plus important bien sûr. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui nous définit l'oraison en disant « L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. » Donc un commerce d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Aimer. Alors nous allons voir le but, ensuite qui fait oraison, ensuite ce qu'est l'oraison et sa préparation, enfin les éléments plus concrets. Donc le but de l'oraison, eh bien, c'est de vivre en homme et en baptisé. Pourquoi je dis cela, vivre en homme, c'est que... Bernanos qui écrit « On ne comprendra rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. La civilisation moderne nous enferme dans le matériel et empêche l'esprit de vivre. Or, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Donc, c'est pour ça que je dis faire vivre l'homme en homme, c'est-à-dire faire vivre notre esprit. Et d'abord ça. Donc à la limite, si vous voulez, la méditation, pas l'oraison que ferait un chrétien, mais la méditation devrait être quelque chose de commun à tous les hommes. Alors bien sûr, c'est d'abord la vie du baptisé, puisque nous sommes, par le baptême, notre âme est unie à Dieu, elle vit de la vie de Dieu, bien il faut actualiser cette vie, la mettre en œuvre. Et c'est ça l'oraison. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Je vous avais cité cela lundi. Et donc le but c'est de nous unir à Dieu, et on s'unit à Dieu par la charité. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et saint Augustin disait « Unis ton cœur à l'éternité de Dieu et tu seras éternel. » Eh bien, l'oraison a pour but de nous déterminer de plus en plus à faire la volonté de Dieu, ce qui est s'unir à Dieu par charité, afin d'obtenir la vie éternelle. Et c'est bien notre baptême. Que demandez-vous à l'Église ? La foi, que vous procure la foi, la vie éternelle. Si vous voulez obtenir la vie éternelle, aimez Dieu, aimez le prochain. Voilà ce que l'Église nous a dit, les premiers mots de l'Église à notre baptême. L'oraison, elle est faite pour ça. C'est tout. Nous déterminer à faire de mieux en mieux la volonté de Dieu, d'aimer Dieu, afin d'obtenir la vie éternelle. Puis notre Seigneur dit aussi, la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, ici-bas, nous devons connaître Dieu pour l'aimer. Et connaître Dieu pour aimer Dieu, c'est le commencement de la vie éternelle. Donc l'oraison est la porte d'entrée, le chemin qui conduit au salut éternel, qui conduit à la perfection. Donc ça fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux religieux ou aux religieuses. Non, c'est la vie de notre âme. Alors la nécessité, c'est le prophète Jérémie qui dit « Toute la terre est livrée à une grande désolation, car il n'y a personne qui réfléchisse en son cœur. » Combien c'est actuel ? Pouf. La terre est livrée à une grande désolation, car il n'y a personne qui réfléchisse en son cœur. Et cette réflexion doit porter sur les origines et les destinées éternelles de l'homme. Et le livre de l'Ecclésiastique dit « Souvenez-vous de vos fins dernières dans toutes vos actions et vous ne pécherez jamais. » Souvenez-vous de vos fins dernières dans toutes vos actions et vous ne pécherez jamais. Et puis, cela nous aidera aussi à tenir ferme dans les épreuves. Je répète ce que j'ai dit lundi. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. En contemplant Dieu, nous demeurons fermes. Et pour nous encourager, Sainte Thérèse d'Avila nous dit « Un quart d'heure d'oraison par jour et je vous promets le ciel. » Voilà, il faut persévérer. Alors bien sûr, le démon fera tout pour nous en détourner. Ça, soyez sans illusion, il combattra cela. Alors cette oraison, pourquoi justement elle nous permet d'obtenir le ciel, c'est que cette oraison nourrit la dévotion. Qu'est-ce que c'est la dévotion? C'est la promptitude au service de Dieu. La promptitude au service de Dieu ou la facilité que la volonté éprouve à faire le bien. Eh bien, la vie d'oraison nourrit cette dévotion. Forcément, dans l'oraison, on cherche à connaître et aimer Dieu, ça rejaillit sur toute la journée, sur le reste de la journée. Par conséquent, nous aide à mieux faire les choses. Et puis, si vous manquez de temps dans la journée, bien faites un peu plus oraison. C'est ce que les saints faisaient quand ils savaient qu'il y avait beaucoup d'occupations dans la journée. Eh bien, ils augmentaient leur temps d'oraison et ils arrivaient à tout faire. Voilà. Il faut prendre exemple sur eux. Et puis, c'est aussi une nécessité sociale. Là, nous retrouvons encore Fatima. Et c'est un livre de prophète Ézéchiel qui est vraiment tout à fait dans l'esprit de Fatima. « J'ai cherché parmi ce peuple un homme qui s'interposa comme une barrière et qui se tint ferme contre moi. » Notez le terme, « qui se tint ferme contre moi pour que je n'exterminasse pas la terre et je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi j'ai répandu sur eux mon indignation et je les ai consumés dans le feu de ma colère. » Ça fait réfléchir. Surtout que Fatima, c'est un petit peu ça. Sœur Lucie dit, j'ai noté ça dans un passage dans Fatima, la joie intime événement mondial. Elle dit que la Seconde Guerre mondiale est un châtiment pour les péchés. Et elle ajoute, il a raison, les crimes sont nombreux, mais c'est surtout la négligence des âmes dont il espérait l'ardeur à son service qui est maintenant la plus grande. Il est très limité le nombre des âmes avec lesquelles il se rencontre, c'est-à-dire celles qui vont aider Dieu en quelque sorte, à empêcher les châtiments parce qu'elles vont prier et se sacrifier. Et Lucie, modestement, dit « Le pire, c'est que je suis du nombre des tièdes après tant d'efforts qu'il a fait pour m'incorporer dans le groupe des fervents. » Sainte Catherine de Sienne disait « La société serait moins mauvaise si nous étions plus saints. » Et cette sainteté, nous la puiserons dans la vie de raison. Vous avez l'exemple de Moïse dans l'Ancien Testament. On connaissait le veau d'or après le Sinaï. Moïse redescend avec les tables de la loi. Mais comme il est resté trop longtemps en haut du Sinaï, les Hébreux se sont fait un dieu à eux, un veau d'or. Et ils l'ont adoré. Et puis ils faisaient les ripailles habituelles des Égyptiens. Alors, quand Moïse redescend, il est dans une colère terrible. Il casse l'étape de la loi, il réduit en poussière le veau d'or, il le met dans l'eau, il leur fait boire. Puis après, il prie pour écarter la colère de Dieu, car Dieu veut tous les détruire. Et Moïse dit, mais enfin, ce peuple, vous l'avez fait sortir d'Égypte avec des miracles extraordinaires. Si les païens, les autres, les idolâtres, apprennent que vous avez emmené ce peuple dans le désert pour l'y faire mourir, ils vont se moquer de vous. Alors Seigneur, ne faites pas ça, sauvez-les pour l'honneur de votre nom. Et Dieu est apaisé dans sa colère, mais il en fait mourir quand même un certain nombre. Donc la nécessité sociale de l'oraison est aussi sa puissance. Une âme qui s'élève, élève le monde. Donc par l'oraison, nous nous élevons et donc nous aidons le monde à sortir de sa misère. Donc, la nature de l'oraison, je reviens sur cette définition de Sainte Thérèse d'Avila, un commerce d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimé. Commerce d'amitié, entretien d'ami à ami. Le baptême nous a donné la grâce sanctifiante et la charité qui nous font enfants de Dieu, amis de Jésus-Christ. Or, cette réalité surnaturelle est cachée de la vie de la grâce, elle est latente et dormante si nous ne faisons rien. Alors, il faut la mettre en action, cette réalité surnaturelle, et lui faire porter des fruits. L'oraison met en action cette réalité surnaturelle et les bonnes œuvres font porter des fruits. Les bonnes œuvres qui vont jaillir de cette charité qui est excitée, qui est réveillée, les bonnes œuvres que nous allons faire vont provenir de cette oraison. Si nous réveillons la charité chaque matin, cette charité va nous aider à produire les bonnes œuvres dans la journée. Donc il faut mettre cette réalité surnaturelle en action. Alors il y a deux personnes, Dieu et nous-mêmes. Dieu est toujours en activité, toujours présent à nous-mêmes et présent en nous-mêmes par la grâce. Donc Dieu est toujours en activité, à nous maintenant d'agir. Surnaturellement, avec toutes nos facultés, la mémoire, l'intelligence, la volonté, pour témoigner de notre amitié à Dieu, pour lui témoigner notre amour. Donc il s'agit de nous recueillir en nous-mêmes, loin de tout ce qui dissipe, pour être avec Jésus-Christ, avec Dieu. Donc, il faut commencer par faire taire tous les bruits extérieurs et intérieurs, toutes les préoccupations et tous les soucis. Et ensuite, c'est par la foi, l'espérance et la charité que nous faisons oraison. Le petit livre « Amour et silence » par un chartreux explique ça très très bien. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. « Amour et silence » par un chartreux. Il explique que la vie d'oraison, c'est mettre en activité, en action, la foi, l'espérance, la charité. Ce qui est l'organisme surnaturel. Par la foi, nous croyons à l'infinie majesté de Dieu, à ses infinies perfections. Donc la première attitude, c'est l'adoration de Dieu présent. Nous sommes créatures, rien du tout devant Dieu. Alors la foi nous met d'emblée dans l'adoration envers Dieu qui est d'une infinie majesté. Puis nous savons combien nous sommes pécheurs. Et c'est pourquoi la deuxième attitude naturelle qui vient tout de suite, c'est cette contrition profonde et intérieure de nos péchés. Dieu ne repousse jamais le cœur contrit et humilié, c'est dans le psaume 50 que vous devez avoir dans vos missels. Mais Dieu repousse l'orgueilleux. Donc la foi nous met dans l'adoration, dans la contrition. Et ensuite, la foi nous rappelle l'amour de Dieu pour nous et tous les multiples aspects de cet amour de Dieu pour nous. Un commerce d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimé. On sait qu'on est aimé de Dieu par la foi. Alors nous réfléchissons à cet amour de Dieu, à tout ce que cet amour de Dieu a fait pour nous dans la création et dans la rédemption. Il y a de quoi faire. Nous admirons. Alors, par la foi, dans la foi et notre intelligence, nous faisons des réflexions sur cet amour du bon Dieu. Et par la foi, par ces réflexions sur ces vérités, eh bien, s'allume en nous la charité. Le rappel des vérités de la foi, le rappel de ce que le bon Dieu a fait pour nous, eh bien, allume naturellement la charité en nous. Quand on voit tout ce que le bon Dieu a fait, Dieu qui est d'une infinie majesté, souvenez-vous de ce que nous avons vu lundi, et puis à vrai, vous vous dites, Jésus est Dieu et il est mort sur la croix. Ah, quand même, ça doit solliciter notre cœur. Alors cette charité nous unit à Dieu, alors nous voulons dire à Dieu notre amour, nous lui promettre de l'aimer davantage par telle ou telle résolution ou simplement renouveler telle ou telle résolution. Et le but de l'oraison, ben c'est ça. Nous unir à Dieu par la charité, par l'accomplissement de sa volonté. C'est aimer Dieu. Le but de l'oraison, c'est d'aimer Dieu et de renouveler nos résolutions pour que cet amour de Dieu soit solide. Donc, foi, charité. Et après, on se dit, ben oui, Seigneur, je veux bien faire votre volonté, mais vous savez ce que je suis. Rien du tout, plein de faiblesses, de misère. Alors Seigneur, aidez-moi. Et ça, c'est l'espérance. L'espérance dans le secours de Dieu. Seigneur, sans vous, je ne peux rien. Je connais trop mes misères et ma faiblesse. Alors Seigneur, j'attends de vous les secours nécessaires. La foi, la charité et l'espérance. Espérance aussi, que ce Dieu que nous regardons dans la foi, nous avons l'espérance que nous le verrons face à face dans le ciel. Et cette espérance doit nous donner des ailes en nous disant, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est rien. Je peux tout perdre, peut m'arriver les pires malheurs. Du moment que mon âme est unie à Dieu, j'entrerai dans le bonheur éternel. Alors, cette espérance nous donne la paix. Cette espérance, cette certitude de la possession éternelle de Dieu dans le ciel nous donne la paix. Alors, il faut faire ce commerce d'amitié avec Jésus-Christ, en présence de Jésus-Christ, parce que vous savez que c'est lui qui est notre sauveur, notre rédempteur. Donc, nous ne pouvons rien avoir sans lui. Jésus est l'unique médiateur, il est la voie, la vérité et la vie. Puis de plus, nous ne sommes pas anges, mais nous sommes corps. Nous avons besoin d'un appui corporel et visible. Et cet appui corporel et visible, c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque nous voulons contempler Dieu, il faut regarder Jésus-Christ. Regardons Jésus-Christ dans l'Évangile, nous avons tous les signes extérieurs de sa divinité. Et en regardant l'Évangile, nous voyons la divinité de Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Vous savez ce que dit Saint, notre Seigneur à l'apôtre Philippe. Saint Philippe demande à Dieu, à Jésus-Christ, « Seigneur, montrez-nous le Père. » Et Jésus lui dit, ça fait 3 ans que vous êtes avec moi, et vous n'avez toujours pas compris. Qui m'a vu a vu le Père. Bon, par la foi, s'entend, hein, pas par les yeux de la chair, mais par la foi. Jésus, c'est Dieu mis à notre portée. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir nos regards sur Jésus-Christ et surtout pour comprendre l'amour du bon Dieu. Donc, je vous ai donné le but de l'oraison, sa nécessité. Ce qu'est l'oraison, ce commerce d'amitié avec Dieu qui se fait par la foi, la charité, l'espérance avec Jésus-Christ. Et maintenant, qui fait oraison ? Alors vous allez me dire, c'est nous. Oui, oui, mais c'est d'abord le Saint-Esprit. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. De même, le Saint-Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières selon nos besoins. Mais l'Esprit Saint lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables, des gémissements qu'on ne peut pas raconter. Donc, celles qui disent « je ne sais pas prier », se rassurent, puisque Saint Paul lui-même vous dit « nous ne savons pas prier ». Et que c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. C'est pourquoi il faut commencer à l'oraison, en priant le Saint-Esprit. D'où une grande docilité au Saint-Esprit, à ses inspirations, d'où aussi la dévotion à la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, étant l'épouse du Saint-Esprit, nous aidera à recueillir ses inspirations et à être docile. Or, le Saint-Esprit va être le guide de notre raison et aussi le guide de notre vie spirituelle, celui qui nous conduit dans le chemin de l'imperfection. Nous avons besoin d'un guide. Il y a le guide extérieur visible qui est Jésus-Christ, et puis il y a le guide intérieur qui est le Saint-Esprit. Car le chemin de la perfection nous est inconnu, il est hérissé d'obstacles et de dangers multiples. Nous avons besoin de ce guide qui connaît le chemin, le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est le guide et c'est celui qui nous fait faire oraison, qui nous fait avancer dans le chemin de la perfection. Or, j'ajoute à ce guide céleste, il faut aussi joindre un guide terrestre, qui est le confesseur habituel, le guide spirituel, si vous voulez, le confesseur habituel, ou un autre prêtre à qui on peut écrire facilement ou pour nous faire aider en cela. C'est important, il faut toujours la médiation, l'intermédiaire sensible et corporel pour aller à Dieu. On n'y va jamais directement. Donc on a besoin d'un guide extérieur. Mais ce guide extérieur, le prêtre, ne doit être que l'interprète du Saint-Esprit. Donc il y a le Saint-Esprit qui fait oraison, puis il y a nous. Donc c'est nous, bien sûr, qui faisons oraison avec notre faiblesse, nos misères, mais aussi les richesses surnaturelles de notre âme. Alors comment s'y prendre ? On dit qu'il y a des méthodes d'oraison. Mais la méthode dépend du degré de perfection où nous nous trouvons, dépend aussi de nos tempéraments, des circonstances. Alors, au début, c'est surtout nous qui agissons par nos facultés. Effort de la mémoire pour se rappeler les vérités à méditer. Se rappeler la vie de Jésus-Christ, rappeler les grandes vérités de notre foi. Effort de l'intelligence, réflexion sur ces vérités, sur les mystères de notre religion, sur les vertus à pratiquer, réflexion sur les fins dernières, puis réflexion sur l'application pratique pour notre vie. Oui, voilà ce que me dit Jésus-Christ, et moi, qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça, et puis pas ça, puis voilà la résolution, on réfléchit. Et ensuite, effort de la volonté, pour vouloir le bien et détester le mal que j'ai fait ou que je pourrais faire. Effort de la volonté pour aimer Dieu par-dessus tout, pour faire sa volonté et prendre des résolutions, et puis tenir. Donc les mémoires, intelligence, volonté. Et le plus important des trois, c'est le troisième. Oh, c'est le but de l'oraison, l'amour de Dieu et les résolutions. Une résolution, ça peut être qu'une résolution et qui peut consister simplement à renouveler telle résolution pour la tenir. Donc au début, c'est surtout nous qui agissons par nos facultés et peu à peu, c'est le Saint-Esprit qui agit davantage en nous et alors l'oraison se simplifie. La réflexion devient moins importante. La volonté multiplie des mouvements d'amour vers Dieu et parfois se fixe dans un seul mouvement d'amour envers Dieu et y trouve son repos. Donc nous avons au début une oraison qu'on appelle l'oraison discursive, c'est-à-dire que l'intelligence a plus de part, elle réfléchit, et on appelle ça la méditation. Et après, lorsque c'est surtout des affections de la volonté, la volonté qui veut aimer Dieu et qui se repose dans un mouvement, dans un élan d'amour vers Dieu, on appelle ça davantage la contemplation. C'est pourquoi en vous donnant quelques définitions de saints sur l'oraison, vous allez voir ces deux aspects. En vous donnant ces définitions, comme c'est les saints qui les donnent, c'est toujours mieux que nous, mais vous allez y voir ces deux aspects. Alors, saint François de Sales dit « L'oraison, c'est une pensée attentive et réitérée, entretenue volontairement dans l'esprit, donc une pensée, afin d'exciter la volonté à de saintes et salutaires affections et résolutions. » Donc la pensée qui conduit à exciter la volonté à des affections et résolutions. Saint Ignace de Loyola, dont vous allez, ceux qui ont fait les exercices spirituels des cinq jours vont reconnaître tout de suite, sur chacun des points que l'on médite, on exerce sa mémoire pour se rappeler les faits ou les idées, son intelligence pour bien en comprendre le sens, la valeur, sa volonté pour exciter les sentiments appropriés et tirer les conclusions pratiques. C'est toujours le même aspect, la réflexion et les sentiments de la volonté, l'amour et les résolutions. Ensuite, définition que donne saint Jean de la Croix, où on va voir davantage l'aspect contemplatif. Donc l'oraison, c'est l'état et l'exercice de ceux... L'état et l'exercice de ceux qui commencent est de méditer et de faire des actes et des exercices de discours et d'imagination. Donc on fait des actes, des exercices de l'intelligence qui réfléchit, de l'imagination qui se rappelle les vérités. Mais quand on va plus loin, en cet état nouveau, donc dans la contemplation, dans l'état plus loin, le principal agent, qui est Dieu, va secrètement et tout doucement mettant l'âme en la connaissance amoureuse sans spécification d'acte particulier. Donc là, c'est Dieu qui guide l'âme, qui la met dans un acte d'amour, et l'âme se repose dans cet acte d'amour du bon Dieu sans chose particulière, sans objet particulier. Donc quand on se sent appelé à aimer Dieu, ben on reste en silence, puis on se tient comme ça. Et on reçoit. Et c'est ce que saint Ignace dit aussi, hein, il précise dans la méthode des exercices, il dit « Si j'éprouve dans un point de la méditation les sentiments que je voulais exciter en moi, les sentiments, donc le mouvement de la volonté, l'amour, ben je m'y arrêterai et je m'y reposerai sans me mettre en peine d'aller ailleurs, dans les points de la méditation. Je m'arrête là. Du moment que j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire l'amour du bon Dieu, ben je m'arrête là. Et si je peux rester là 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ben je reste là. Parce ce qui compte, c'est l'acte d'amour du bon Dieu. » Donc, il dit, je m'y arrêterai, je m'y reposerai sans me mettre en peine de passer outre jusqu'à ce que mon âme soit pleinement satisfaite. Et le père Rodriguez, qui est l'un des compagnons de saint Ignace de Loyola, dans son traité de la, il me semble que ça s'appelle La pratique de la perfection chrétienne, il dit, quoique la méditation soit si utile et nécessaire, il ne faut pas que toute notre raison se passe en raisonnement et en réflexion. Ce n'est pas là que nous devons nous arrêter, parce que cette, de cette sorte, ce serait plutôt une étude qu'une oraison. Et non, si vous passez toute l'oraison en raisonnement et en réflexion, vous faites plutôt une étude, étude de théologie. Bon, très bien, c'est intéressant, il faut, mais ce n'est pas l'oraison, ça ne débouche pas sur un acte d'amour de Dieu. Il faut arrêter la réflexion quand la volonté est échauffée. Donc, la réflexion, réfléchir, a pour but d'exciter la volonté à l'amour de Dieu. Or, si un seul mot, notre Père, suffit, ben, ça suffit. Il y a des saints qui disent, notre Père, ben, restez en oraison pendant une heure. Bon, c'est déjà un grand degré, mais c'est pour vous faire comprendre que elles voyaient tout de suite ce que signifiait notre Père, elles étaient remplies tellement d'admiration et d'amour qu'elles y restaient. Mais ce n'est pas la peine d'aller ailleurs dans le reste du Notre Père. Ou encore ce paysan qui disait au curé d'Ars, le curé d'Ars voyait un paysan qui tout le matin posait sa bêche à l'entrée de l'église, puis qui entrait, qui allait devant le Saint-Sacrement, puis qui restait là, sans bouger. Alors, le curé d'Ars était dans l'admiration, puis il lui demande un jour, qu'est-ce que vous faites ? Il m'avise et je l'avise. C'est tout. Un commerce d'amitié. Hein. C'est tout. Il faut être simple. Alors, si on veut descendre dans les détails plus pratiques sur les méthodes, elles sont nombreuses. Vous pourrez regarder dans l'âme de tout apostolat de Don Chotard, il en donne une dizaine. Alors, je ne vais pas vous imposer quelque chose. Vous pouvez aussi consulter saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote. Je vous conseille beaucoup ce petit livre qui donne des tas de petits conseils adaptés à votre vie. Vous avez la méthode de saint Ignace, vous avez celle de l'école française. Bon. Alors le schéma est toujours le même. La mise en présence de Dieu. Se mettre en présence de Dieu, c'est ça le plus important. Se dire, c'est à une personne que je parle. C'est pas un mur, c'est pas à des idées. C'est à une réalité, une personne. Elle m'écoute et elle m'aime. Mais j'ajoute aussitôt à une personne divine. D'où l'adoration, donc l'attitude respectueuse du corps. C'est pourquoi on conseille de faire, si c'est possible, l'oraison à genoux, ou au moins d'être à genoux au début et à la fin. Parce que notre corps participe à l'oraison. Nous ne sommes pas esprit seulement, nous sommes corps et esprit. Donc le corps et l'esprit participent à l'oraison. Et il est évident que la position du corps aide à bien prier. Et que la position à genoux, c'est une position d'adoration. Nous sommes créatures. Dieu qui dit à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui suis et tu es celle qui n'est pas. » Notre totale dépendance. L'adoration, puis la contrition, nous sommes des pauvres pécheurs, des ingrats, des faibles, des mous, des tout ce que vous voulez au service de Dieu. Donc cette mise en présence de Dieu, c'est une personne que je parle, mais une personne divine. Ensuite, on demande l'aide du Saint-Esprit, donc une prière à l'Esprit-Saint, et on demande l'aide de la très sainte Vierge Marie. Voilà pour la préparation. Ça, c'est le schéma classique. Ensuite, le corps de la méditation, de la contemplation. Donc le sujet choisi. Alors, vous pouvez vous aider du missel avec la liturgie du jour. Par exemple, pendant le carême, vous avez une messe propre chaque jour. Donc, pendant le carême, on peut s'aider du missel. S'aider d'un livre de méditation, s'aider de l'évangile. Alors, avec le livre, vous prenez le livre et vous le lisez lentement, tout doucement. Puis quand à un moment, vous sentez la réflexion, vous sentez que la grâce du bon Dieu agit, ben vous arrêtez sur ce passage. Et si ce passage vous suffit, ben vous vous arrêtez. Oui. Je prendrai quand même un peu plus. Donc lire lentement, réfléchir, faire des actes de foi, donc la foi à la vérité, qui se trouve exprimée dans le livre, acte de foi, acte d'espérance, acte d'amour, acte de contrition, résolution, acte de demande, enfin tout ce que l'Esprit Saint peut nous suggérer. Mais il faut savoir laisser le livre et toute réflexion, dès que notre âme se sent portée vers Dieu, heureuse d'être devant Dieu, sans vouloir autre chose que lui. Vous savez, si vous passez votre raison en disant « Mon Dieu, je veux vous aimer par-dessus tout, je ne veux que vous, et je ne veux pas des créatures », c'est bien. Si vous méditez sur la vanité des parures extérieures, les bijoux, les beaux vêtements, tout ça c'est beau, ça attire les regards, mais devant Dieu, qu'est-ce que c'est? Comme du fumier par rapport à un petit monticule d'or. Qui irait choisir le fumier plutôt que le monticule d'or? Personne. On irait chercher l'or, on n'irait pas prendre le fumier. Eh bien alors prenez Dieu, puis laissez de côté toutes ces parures, tous ces cailloux, tous ces chiffons, etc. C'est tout. C'est pas compliqué. Mon Dieu, je suis là pour vous. C'est vous que je veux. Je me plais en vous. C'est tout. Je ne veux pas autre chose que vous. Alors Seigneur, il y a ça qui vous déplaît, c'est promis, je vais faire un effort pour enlever ça. Oui, c'est la charité. Mon Dieu, je aime par-dessus toute chose. Si telle chose a tendance à prendre la place du bon Dieu, dehors. Et c'est ça les résolutions. Alors, lorsque notre âme ne trouve plus rien, se sent un petit peu sèche, alors on reprend la lecture. On passe de la méditation à la lecture, de la lecture à la méditation. Mais en sachant s'arrêter quand l'Esprit Saint nous prend. Puis, conclusion de l'oraison, bien sûr, l'action de grâce pour ce temps passé auprès de Dieu et pour les grâces reçues. Vous savez, c'est une grande grâce. On entre dans l'intimité de Dieu. Combien on est indigne d'entrer dans l'intimité de Dieu. Vous savez, autrefois, lorsque c'était le roi Louis XIV qui était à la cour de France, faire le lever du roi, entrer dans la chambre du roi, c'était l'honneur que beaucoup pouvaient désirer. Là, ce n'est pas un roi de la terre, c'est le roi des rois. Et nous entrons dans la chambre du grand roi, du roi des rois de Dieu. On peut faire aussi un petit examen de la méditation rapide pour voir ce qui n'a pas été et puis se corriger un petit peu. Et puis recueillir, comme dit saint François de Sales, un bouquet spirituel, c'est-à-dire une pensée, une résolution, ou le bienfait, simplement, le souvenir du bienfait. Et encore une fois, on entretient cela dans la journée par les petites oraisons jaculatoires. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, c'est pas aussi facile que ça, ce qui est vrai. Le bon Dieu nous met parfois des consolations dans l'oraison, mais parfois c'est des sécheresses. On est là, et puis on s'ennuie. Saint Thérèse d'Enfant Jésus le dit, regardez les clous des chaussures de sa voisine. Ou quelque chose comme ça. Alors, il faut persévérer dans ces sécheresses. Car, comme le dit, je ne sais plus qui, ça doit être le livre de l'Imitation, ou un saint, ne cherchez pas les consolations de Dieu, mais le Dieu des consolations. Donc c'est dans les sécheresses, lorsque nous y persévérons, que nous montrons notre amour du bon Dieu. Parce qu'on dit au bon Dieu, voyez, je ne suis pas là pour les consolations que vous me donnez, puisque je reste là alors qu'il n'y a pas les consolations. Donc je suis là pour vous, et vraiment pour vous, parce que si avec moi, il y a longtemps que je serais parti. Si je m'écoutais, je serais parti. Mais si je suis là, c'est vraiment pour vous. Donc on persévère. Alors cependant, il faut se faire guider par un prêtre en lui expliquant un peu les difficultés tout de même. Alors ensuite, les distractions, elles peuvent être involontaires. Cela fait partie des épreuves. Bon, ben faut les combattre. Et si 20 fois de suite, on dit au mon Dieu, Seigneur, je ne veux pas de ces distractions, c'est vous que je veux, et qu'on fait ça 20 fois, 30 fois de suite, ben qu'est-ce qu'on a dit au bon Dieu ? Que c'est lui qu'on voulait. Donc on a fait 20 ou 30 ou 40 actes de charité. Bien sûr. Donc vous repoussez cela, les distractions, on les repousse. Alors attention, pas avec violence. Vous lirez Saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, il explique ça. Il faut revenir tout doucement vers le bon Dieu, hein, sans agitation. Ça peut être des distractions volontaires, plus ou moins volontaires. Alors volontaires si on les veut, ou si on ne fait rien pour les repousser, ou bien si on a fait des lectures inutiles ou vu des films inutiles qui envahissent l'imagination d'images. Ça peut être ça, les causes. Il faut voir un petit peu, chercher un petit peu la cause. Alors bien sûr, on repousse ces distractions. Quand on s'en rend compte, bon, on les combat, comme je viens de le dire, et ce combat est méritoire. On supplie Jésus de nous aider, la Sainte Vierge, notre ange gardien. Et il faut aussi s'en prendre à la cause. Et un peu ça aussi, il faut garder. Alors ça peut être, ces distractions, la cause des distractions, ça peut être le manque de préparation. Ça peut être la dissipation habituelle de l'âme, le manque de renoncement, l'attachement à tel ou tel objet qu'on aime trop. Hein, comme dit Jésus, là où est ton cœur, là est ton trésor. Alors si on est toujours distrait vers telle ou telle chose, c'est que cette chose doit vraiment nous intéresser, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne pense pas à ce qui ne nous intéresse pas. Donc si on pense à telle ou telle chose, c'est que sans doute elle nous intéresse, on l'a à cœur pour telle ou telle raison. Ça peut être les soucis, hein, bien sûr. Mais il faut se détacher de ça. Donc c'est là où on arrive pour la nécessité de la préparation de la méditation. Vous voyez, pour combattre tous les obstacles. Donc, dans la préparation de la méditation, vous avez la préparation éloignée. Voilà, donc, s'écarter tous les obstacles à l'amour de Dieu. Alors, donc, je répète ce qu'on nous a dit, ce que je viens de dire, si nous sommes trop attachés aux choses de ce monde et à nous-mêmes, notre âme ne pourra pas s'élever vers Dieu. Et l'oraison s'en ressent, d'où la mortification de nos tendances mauvaises, le renoncement. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut choisir entre Dieu et la créature. Alors plus on renonce à la créature, plus on peut augmenter l'amour du bon Dieu, et plus l'oraison sera facile. Pour certains saints, il faut faire le contraire de nous, il faut leur donner des distractions, sinon ils sont en oraison continuelle, ils ne peuvent pas faire leurs occupations habituelles. Donc la mortification de nos tendances mauvaises, le renoncement, pour obtenir surtout la pureté intérieure et l'humilité. Et il faut de la générosité, hein, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur du sacrifice, et c'est souvent des choses que nous pouvons demander dans l'oraison, cette générosité, pour ne pas avoir peur de sacrifier tout ce qu'il faut pour écarter les obstacles et nous rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est la préparation éloignée, qui est toute la vie chrétienne, hein, bien sûr. Il y a un lien étroit entre l'oraison et la vie chrétienne, du chrétien au jour le jour, hein, bien sûr. Et puis la préparation prochaine, c'est le choix du sujet de méditation. Le choix du livre qui peut nous aider, le choix du passage dans le livre. Lorsque l'on conseille tous les auteurs spirituels, le conseil, il faut lire ce passage la veille au soir, et puis dès qu'on se réveille le matin, essayer de se le rappeler. Bon, on n'y arrive pas toujours très facile. Enfin, on peut essayer de se rappeler, de fixer la veille au soir le sujet de la méditation et puis de se le rappeler dès le lendemain matin. Et la lecture spirituelle, puisque ça fait partie de la vie chrétienne, une bonne lecture spirituelle, la lecture spirituelle peut être une excellente préparation à l'oraison. Vous pouvez même lire un bon livre de spiritualité. Je pense par exemple au livre de Don Marmion qui nous font méditer les mystères de Jésus-Christ. Vous lisez ça la veille et vous dites, tiens, tel passage, là, ça m'a touché plus particulièrement. Ben, le lendemain matin, vous le reprenez dans l'oraison. Vous relisez tout doucement ce passage et vous le méditez. Ce qui fait une unité entre votre lecture spirituelle et l'oraison. Ensuite, le lieu. Ça, c'est l'aspect très matériel, mais c'est important. Il faut un endroit où nous puissions être en silence, facilement en présence de Dieu, ne pas être dérangé. Puis un endroit où vraiment l'extérieur, ce qu'on voit des yeux, aide au recueillement. Donc un petit oratoire, enfin, des images de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des fleurs, des cierges, enfin quelque chose qui fasse comme un petit oratoire et qui nous aide un petit peu au recueillement. Le moment de la journée, alors c'est le matin, sauf impossibilité, mais le matin. Le temps à y consacrer, bon, 15 minutes minimum, mais essayez de faire 20 minutes. Les plus généreux feront 30 minutes et les très généreux feront une heure. Il y a aussi la possibilité matérielle de le faire. La position, comme je vous l'ai dit, à genoux si c'est possible, en tous les cas au moins au début et à la fin. Et si vous vous asseyez, une position qui soit respectueuse à l'égard de la présence de Dieu. Si vous asseyez et que vous êtes affalé, bien allongé dans votre siège, non, c'est pas la peine. Non, non. Il faut être cette position qui nous rappelle la présence de Dieu et qui nous aide à être recueillis. Donc, faisons raison. Hein. Toute la terre est livrée à une grande désolation car il n'y a personne qui réfléchisse en son cœur. Eh bien, prenons ce temps chaque matin de réfléchir en notre cœur et que toute notre méditation soit orientée vers Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ résume tout. Il est Dieu, donc toutes les perfections de Dieu, tout ce qu'on peut méditer sur Dieu se trouve en Jésus-Christ. Il y a son humanité sainte et il y a toute l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de l'incarnation, l'union du divin et de l'humain, et l'œuvre de la rédemption, l'amour de Dieu. Nous avons tout en Jésus-Christ, puis son enseignement, bien sûr. Que Jésus-Christ, comme dit saint Paul, soit vraiment tout pour nous. Saint Paul dit, je connais qu'une seule chose, Jésus et Jésus crucifié. Voilà.